France Inter. Le 18-20. Claire Servagen.
Déjà 4 jours de guerre en Ukraine avec des déclarations de plus en plus inquiétantes de la part de Vladimir Poutine. Le président russe ordonne la mise en alerte de la force de dissuasion, ce qui comprend l'arme nucléaire. Pourtant, dans le même temps, l'Ukraine annonce des pourparlers avec Moscou à la frontière avec la Biélorussie. On va tenter de comprendre les raisons de ces messages contradictoires qui nous arrivent ce soir. En attendant, les bombardements et les combats se poursuivent. Les habitants continuent de fuir. 370 000 réfugiés passés à l'étranger, sans parler des déplacés à l'intérieur du pays. Il serait plusieurs millions, vous venez de l'entendre, dans le point complet du journal de 19h. Mais peut-être avez-vous encore des questions sur l'aspect militaire, sur les livraisons d'armes, sur les pressions économiques, sur la réponse diplomatique, que ce soit au niveau européen ou plus largement au niveau international. Alors, surtout, n'hésitez pas, nos invités sont là pour répondre à vos questions. Je vous les présente. Alexandra Goujon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en ligne avec nous, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Bourgogne. Vous avez publié « L'Ukraine, de l'indépendance à la guerre », édition « Le Cavalier Bleu ». En ligne avec nous également, le général Jérôme Pellistrandi. Bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef de la revue « Défense nationale ». Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Directeur de la rédaction internationale de Radio France. Je précise que nous serons aussi au téléphone au cours de cette émission avec l'écrivain d'origine russe Yegor Gran. Alors surtout, n'hésitez pas à appeler le standard de France Inter.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour commencer, un premier appel qui nous vient de l'Aube, c'est René qui est en ligne de l'Aude. Bonsoir René. Un petit message qui a l'air de montrer que vous êtes particulièrement inquiet.
Inquiet, oui, au vu de l'évolution des événements. C'était un peu prévisible, mais bon, on ne voulait pas y croire. Mais bon, maintenant c'est là. Et ma question est la suivante. Poutine vient d'ordonner la mise en alerte de ses forces de dissuasion, donc l'arme nucléaire. Au vu des sanctions qui avancent, du soutien international à l'Ukraine, Poutine est plus ou moins acculé, donc il va avancer, il va continuer, il va pas reculer. Et mon inquiétude est l'utilisation de la force nucléaire par Poutine. Et est-ce que la cible pourrait être en Europe? Et si la cible est en Europe, est-ce que nous avons les moyens de nous défendre?
Merci René pour cette question et je peux vous dire que vous n'êtes pas tout seul à vous inquiéter de cette façon. On a beaucoup de messages, y compris sur franceinter.fr, d'auditeurs qui s'interrogent également. On va se tourner vers le général Jérôme Pellistrandi à propos de ce qu'a dit Vladimir Poutine tout à l'heure, le fait d'ordonner de mettre les forces de dissuasion en alerte. Monsieur Pellistrandi, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est déjà arrivé d'abord?
Alors, en fait, il faut se rappeler qu'il y a déjà eu une crise majeure, hein, c'était en 1962, la fameuse crise de Cuba, lorsque l'Union soviétique avait installé des missiles donc sur l'île de Cuba et qui menaçait les États-Unis. Donc on avait connu une crise extrêmement importante, avec la mise en place d'ailleurs à l'issue, justement pour régler, de ce fameux téléphone rouge permettant un dialogue entre donc Washington et Moscou. Ce qui est nouveau ce soir, c'est effectivement cette déclaration à la télévision, devant le ministre de la Défense et son chef d'état-major. C'est ce type de gesticulation, normalement, ne se fait pas publiquement. Bon, donc il y a effectivement des raisons de s'inquiéter, mais en même temps, je crois que il faut aussi rappeler, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, que l'OTAN est une puissance nucléaire, et donc les bravades de Poutine ce soir doivent effectivement sont sérieuses, mais il faut aussi qu'ils comprennent qu'il y a une vraie détermination de la part donc des pays occidentaux.
Et que donc ça pourrait se neutraliser comme à l'époque de la guerre froide, Jean-Marc Four, c'est ça?
Il y a deux lectures possibles, évidemment. Personne n'est dans la tête de Poutine, on n'a pas nécessairement envie. La première lecture, c'est qu'il veut faire monter les enchères, c'est une stratégie de communication, c'est ce que vient de dire le général Pellistrandi, c'est une partie de l'explication et c'est pour ça qu'il le fait publiquement, évidemment. D'un autre côté, on voit bien qu'il faut aussi prendre un peu au premier degré ce que dit Vladimir Poutine depuis quelques jours, et que finalement, quand il commence à dire un truc, il passe à l'action à un moment ou à un autre. Donc c'est vrai que c'est pas très rassurant de ce point de vue-là, sachant que le nombre d'ogives nucléaires que possède la Russie, c'est-à-dire à peu près comme les États-Unis, même un peu plus.
Si on prenait au sérieux ce que dit Vladimir Poutine, Jérôme Pellistrandi, et qu'on revenait à la question de René, qui pose la question des cibles, est-ce qu'on peut répondre à cette question ?
C'est difficile de répondre à cette question. Quand la dissuasion est apparue, dans les années 1950-1960, très clairement, l'objectif était d'une neutralisation mutuelle, c'est-à-dire de détruire le plus l'adversaire. Pour vous donner un exemple, les Russes ont fait exploser le 30 octobre 1961 une bombe atomique de 57 mégatonnes. Pour vous donner en comparaison, Hiroshima, c'est 15 kilotonnes. Vous voyez, c'est des puissances qui sont complètement délirantes. Il y a eu une évolution maintenant, et donc dans la doctrine de dissuasion nucléaire, les cibles pourraient être non pas des villes, parce que là, c'est l'anéantissement des populations. Ça peut être en fait des cibles militaires, des bases aériennes, des ports militaires. Mais effectivement, il y a une incertitude dans le discours de la dissuasion, justement, pour que l'adversaire ne soit pas lui-même incité à utiliser l'arme nucléaire. C'est très compliqué, c'est une grammaire. On appelle ça une grammaire de la dissuasion. C'est extrêmement subtil et il faut reconnaître que ce soir, Poutine a sorti ses gros sabots.
Et alors, gros sabots, n'empêche que ça inquiète, je vous le disais, nos auditeurs. Et je continue, Général Pellistrandi, à vous poser la question, parce que ça, c'est Christian qui nous la pose. Y a-t-il en Russie les niveaux de sécurité si Poutine perdait la tête et décidait effectivement d'activer l'arme nucléaire? Est-ce qu'il y a des sécurités d'une certaine façon ?
Oui, il y a des sécurités. Il faut souligner en fait que lors de la chute, lors de l'effondrement de l'Union soviétique, c'était une inquiétude majeure. Il faut se rappeler qu'à l'époque, vous aviez des armes nucléaires qui étaient notamment, par exemple, en Ukraine, qui étaient au Kazakhstan, en Biélorussie, que ces États les ont rendus à la Russie et qu'il y a eu un très gros effort fait et financé notamment par les États-Unis pour sécuriser les chaînes nucléaires russes, pour éviter justement que des terroristes ou que quelqu'un de mal intentionné puisse utiliser ces armes. Donc il y a un contrôle étroit, mais il faut aussi rappeler que celui qui met en œuvre l'arme nucléaire, dans le cas de la Russie, c'est le chef de l'État, c'est Vladimir Poutine, mais là, bon, il y a effectivement des sécurités, et pour simplifier, il peut pas appuyer comme ça sur le bouton.
Il y a forcément quelqu'un qui surveille. Encore une question d'une auditrice. Est-ce qu'il n'y a pas aucun militaire dans l'entourage capable d'arrêter et justement de l'empêcher d'appuyer sur le bouton au dernier moment ? Si.
Alors là, on se situe dans un registre qui est d'ordre politique. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment fonctionne le premier cercle du pouvoir autour de Vladimir Poutine ? Les images que nous avons vues depuis plusieurs semaines lorsqu'il sermonne son chef du renseignement, la solitude du pouvoir, qui a été accentuée d'ailleurs par la peur panique de Poutine vis-à-vis du coronavirus, tout ça est extrêmement effectivement inquiétant. Et donc, quelle pourrait être la réaction de l'entourage, sachant que, et ça c'est quand même quelque chose qui pourrait faire évoluer, c'est que les sanctions touchent l'entourage, et donc jusqu'où soutiendront-ils Poutine, c'est une question qui est désormais posée sur la table.
Je voudrais me tourner vers Alexandra Goujon pour vous faire réagir, vous aussi, à cette escalade verbale, pour l'instant, de Vladimir Poutine. Alexandra Goujon, vous êtes bien là ? Alexandra Goujon, je ne sais pas si vous nous entendez. Je souhaitais vous faire réagir à cette escalade verbale de Vladimir Poutine, qui a donc parlé de mettre en marche la force de dissuasion. Ce à quoi le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a dit « c'est irresponsable », alors que Washington dit, Jean-Marc Four, « Poutine fabrique des menaces ». Tout le monde n'a pas la même lecture.
Non, mais en l'occurrence, Washington a raison. Il fabrique des menaces. C'est ce qu'il a fait sur l'Ukraine, en disant voilà, on va dénazifier, il y a une menace. Enfin bon, voilà. Donc il est dans ce logiciel-là. Mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le général Pellistrandi, parce que je pense que c'est un point crucial dans le bras de fer qui se joue sur les sanctions. C'est ça en fait qui est à l'œuvre. Il y a une tentative assez ferme de la part de l'Union européenne, en réalité, d'avoir une influence sur l'entourage de Poutine, je pense, et sur les oligarques qui l'entourent, pour dire, c'est pas possible, réfrénez-le. Voilà. C'est aussi ça qui se joue probablement dans ces mesures quand même spectaculaires qui ont été annoncées il y a maintenant 2 heures.
Alexandra Goujon, je crois qu'on vous a retrouvée, et je voulais avoir votre réaction suite au propos de Vladimir Poutine à propos des forces de dissuasion. Comment vous interprétez, vous, ces propos, cette escalade ?
Bah, disons que je vais compléter ce qui a été dit parce que je suis plutôt d'accord, bien évidemment, avec ce qui a été dit, et je suis pas une spécialiste des questions de sécurité. Par contre, ce que l'on voit dans le discours de Vladimir Poutine, c'est vraiment le fait de faire peur en quelque sorte, et justement de créer le type de réaction que nous avons ce soir dans les questions du téléphone sonne. Hein, c'est-à-dire que ça fait partie aussi, je pense, de ce qu'on appelle donc aujourd'hui la guerre hybride, hein, cette guerre de l'information, et une manière de dire, vous voyez, l'auditeur a notamment relié cette prise de position avec les sanctions. Donc voilà, est-ce que ces sanctions sont justifiées si elles font faire ce que Vladimir Poutine dit aujourd'hui? Donc en fait, je pense aussi que c'est une stratégie pour faire peur, alerter les opinions publiques contre leur propre gouvernement qui prendrait éventuellement des sanctions trop lourdes.
On va évidemment parler des sanctions qui ont été décidées aujourd'hui, mais avant cela, on va aller à Chambéry retrouver Jean-François. Bonsoir Jean-François.
Oui, bonsoir à toute l'équipe.
Je crois que c'est de dont vous souhaitiez parler.
Oui, en effet, parce que la question qu'on peut imaginer pour l'avenir, c'est Poutine étant mis au banc des nations, enfin la Russie du moins, on pourrait imaginer que ça va le pousser à constituer un axe des dictatures belliqueuses qui comprendraient la Corée du Nord, l'Arabie Saoudite, l'Iran, qui cherche à se doter de la bombe nucléaire et qui sera peut-être facilité du coup comme chantage politique par la Russie sur le plan international.
Merci Jean-François. Je pense que la question est terminée. Jean-Marc Four.
Ah ben, on peut toujours spéculer. C'est pas si évident que ça, à mon avis, quand même, parce que l'air de rien, il y a beaucoup de désaccords entre ces dictatures belliqueuses, pour reprendre la formule de Jean-François. L'Iran, on le voit bien, cherche à négocier, à parvenir à un accord sur le nucléaire, qui d'ailleurs pourrait tomber en fait assez rapidement là au début de la semaine. Enfin, en tout cas, c'est une hypothèse assez forte, donc elle est plutôt dans une logique de négociation. La Chine, certes, a des points communs avec la Russie, mais aussi beaucoup de points de désaccord. Et c'est intéressant de noter que lors de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui a été présentée par les États-Unis avant-hier, la Chine s'est quand même abstenue. Alors vous allez me dire, elle n'a pas voté pour condamner l'intervention russe en Ukraine, c'est vrai, mais elle ne s'est pas non plus opposée à la résolution. Donc c'est le signe que Xi Jinping, et il y a des échanges d'ailleurs avec la diplomatie française, hein, entre les Chinois et la diplomatie française, la Chine ne s'aligne pas sur la Russie sur ce sujet. Donc je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça, hein, de conclure aussitôt à l'hypothèse d'un axe du mal, hein, que pour reprendre une formule qu'utilisait autrefois George Bush. Je pense qu'on n'en est pas là.
Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, demain, c'est a priori ce qu'annonce...
À la demande de la France, oui.
À la demande de la France, qu'est-ce qui pourrait s'y jouer à ce moment-là?
J'ai peur malheureusement que ne se reproduise la même scène, hein, c'est-à-dire que et scène qui se reproduit d'ailleurs en fait depuis des années. On s'aperçoit que le Conseil de sécurité de l'ONU depuis une quinzaine d'années dans une forme d'impasse, je dirais presque depuis la guerre en Irak en fait, donc il y a presque 20 ans, parce qu'il y a toujours un membre du Conseil de sécurité et souvent la Russie, particulièrement la Russie au cours des dernières années, qui utilise son droit de veto. Donc ça a une valeur symbolique, mais ça a un effet pratique sur le terrain assez faible.
Donc ça, c'est du côté du Conseil de sécurité.
Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, hein. Ça veut juste dire qu'il faut pas avoir d'illusions sur l'effet pratique.
Ça, c'est le Conseil de sécurité, c'est l'ONU. Il y a eu des décisions importantes du côté de l'Union européenne cet après-midi. Jean-Marc, je crois que vous souhaitiez quand même en parler.
On a beaucoup critiqué par le passé l'Union européenne pour son manque de réactivité. On peut pas dire cette fois que ça soit le cas. Il y a une série de sanctions spectaculaires cet après-midi.
Lesquelles retenez-vous en priorité?
Le financement d'armes par l'Union européenne pour l'Ukraine, c'est sans précédent en fait. Donc c'est assez majeur. La fermeture de l'espace aérien de la totalité de l'Europe à la Russie, c'est impressionnant. Et la décision d'interdire la diffusion de Russia Today et de Sputnik sur tout le sol européen, c'est qualifié par la Commission européenne de machine médiatique du Kremlin, de mensonge. C'est pas un commentaire, c'est une institution qui le dit. Là aussi, c'est une mesure quand même très impressionnante. Et je ne reviens pas sur le processus en cours de blocage de l'accès au système SWIFT, voilà, pour un certain nombre de banques russes, et de gel des avoirs de la banque centrale russe. Il y a une rapidité d'action de l'Union européenne qui est sans précédent. C'est un fait politique. Et une unanimité. Parce que vous savez que souvent, l'Union européenne a été bloquée par cette question de la nécessaire unanimité à 27. Il y a unanimité à 27, c'est assez significatif.
Sur le financement et la livraison des armes, général Pellistrandi, comment réagissez-vous et qu'en dites-vous?
Oui, c'est ça ce qui est absolument étonnant, le renversement en l'espace de quelques jours, quand vous voyez que la Suède, qui a toujours été très vigilante quant au respect de sa neutralité, a décidé aussi de livrer des armements, parce qu'il y a une véritable inquiétude. Quand on relit effectivement toutes les déclarations de Poutine depuis plusieurs semaines, son agressivité n'est pas qu'à l'égard de l'Ukraine, c'est à l'égard d'autres pays, et en particulier son environnement immédiat. Donc il est effectivement extrêmement important qu'il y ait cette réaction extrêmement ferme donc de l'Union européenne et de ses partenaires, parce que on ne peut pas effectivement laisser Poutine poursuivre d'une part son œuvre de destruction en Ukraine et en quelque sorte menacer tout son environnement.
Alors ça, c'est une décision de l'Union européenne de financer et de livrer des armes, mais un certain nombre de pays le font déjà. Général Pellistroni, comment ça se passe? Et par exemple, dans le cas de la France, on sait que des armes vont être livrées. Comment on choisit? Comment on achemine? Comment ça se passe? Quel type d'armes?
Alors, tout d'abord, c'était un peu subtil, parce qu'on parle effectivement d'armes défensives. Alors certains auditeurs pourraient dire, mais quelle est la différence entre une arme offensive et une arme défensive? Par exemple, quand vous livrez des roquettes anti-chars, celles qui sont utilisées, on peut voir justement sur les médias les débris de chars, c'est bien pour permettre aux forces armées ukrainiennes de se défendre dans un combat face à un ennemi qui, effectivement, lui est supérieur quantitativement et qualitativement. Donc, en fait, l'Ukraine fait des demandes tous les jours auprès de l'OTAN, auprès de ses partenaires, pour exprimer des besoins. Par exemple, la livraison de carburant, oui, comme vous voyez que les dépôts de carburant ukrainiens sont visés par l'aviation russe, il faut bien acheminer du carburant. Donc tous ces flots d'armement donc, qui vont permettre aux forces armées ukrainiennes de poursuivre leur combat vont arriver par l'Ouest, par essentiellement la Pologne ou la Roumanie, et à charge bien entendu des forces armées ukrainiennes de les prendre en compte à la frontière et de les acheminer vers les lieux de combat.
Alexandra Goujon, les Ukrainiens ont un besoin vital de ces armes, de ces moyens?
Oh bah oui, c'est rappelé régulièrement, comme ça vient d'être dit par Volodymyr Zelensky, c'est-à-dire que assez rapidement, il y a eu de toute façon les Ukrainiens sont assez finalement réalistes, hein, et ont bien compris qu'il n'y aurait pas d'intervention de l'OTAN pour les défendre. Donc ils ont dit nous défendrons nous-mêmes, mais aidez-nous à le faire. Donc ça ça a été effectivement répété de nombreuses fois.
On repart au standard de France Inter, retrouver Nicolas qui nous appelle de Nice. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Vous aviez une question sur Swift.
Oui, je voudrais savoir si Poutine pourrait contourner tous les interdits bancaires qui lui sont imposés, et notamment son exclusion du réseau Swift, en empruntant du cash à la Chine.
Vous allez vite en besogne, Nicolas, mais on va poser la question. Allez, Jean-Marc Four, dites-nous.
Alors, je suis pas expert du sujet. Partiellement, sans doute, oui. La réponse est partiellement oui. C'est-à-dire que, et de fait, ça s'est un peu développé ces dernières années. On a vu, par exemple, que l'Iran, qui a été confronté aussi à un régime de sanctions, a trouvé des parades, en particulier via l'Asie. Néanmoins, ça ne peut être que partiel. Il y a trop d'échanges, si vous voulez. Le volume est trop important à passer dans le système interbancaire avec l'Occident pour que tout puisse être redéployé rapidement via d'autres réseaux, via la Chine, la Banque Asiatique d'Investissement, etc. Donc, la réponse est partiellement oui.
Ce que vous nous dites avant tout, c'est que la décision est importante.
Oui.
Hein, et que même à penser à le contourner, ce qu'il faut retenir avant tout, c'est le fait de le décider.
Il y a potentiellement une inquiétude aujourd'hui à Moscou, qu'il n'y ait plus d'argent dans les distributeurs dans quelques jours s'il y a un gel des avoirs de la Banque Centrale Russe. Ce n'est pas totalement farfelu à imaginer. Alors ça ne se passera pas en quelques heures, mais en quelques jours, c'est possible.
Et c'est une décision évidemment très très importante. Un autre appel au standard de France Inter. Jean-Philippe est à Épernay. Bonsoir Jean-Philippe.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Jean-Philippe, vous êtes à l'antenne.
On a déjà constaté que la Russie de Vladimir Poutine ne rendait pas les territoires qu'elle a conquis, CF, Donbass et Crimée. Est-ce qu'on ne peut pas envisager à moyen terme une partition de l'Ukraine entre une Ukraine russe et une Ukraine, disons, occidentale? D'ailleurs, les armes arrivent par l'Occident.
Merci pour cette question, Jean-Philippe. Alexandra Goujon vous répond, elle est spécialiste de l'Ukraine.
Oui, alors il y a plusieurs éléments de réponse. La première, c'est cette fameuse Ukraine divisée en deux, qui ne correspond à aucune réalité aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que si on voulait mettre une frontière intérieure, on ne pourrait pas la mettre, et je vois pas, en fait, il y aurait pas ni d'éléments à proprement parler, culturels, économiques, social. Le Dniepr, qui serait éventuellement une frontière naturelle, ne correspond pas du tout à une frontière, justement, et qui recouvrait d'autres réalités socio-économiques. Alors souvent, quand on parle en fait de l'Ukraine séparée, on parle de deux pôles, l'extrême ouest et l'extrême est, qui effectivement sont différents. Mais on oublie en fait une partie très importante, et on le voit là d'ailleurs, je trouve, avec cette résistance de Kiev, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais et le centre en fait de l'Ukraine. Si vous regardez une carte, c'est quand même le gros morceau de l'Ukraine, c'est le centre. Donc voilà. Par contre, là où je rejoins la question, c'est qu'il y a beaucoup de photos qui ont circulé notamment et qui circulent sur les médias russes, parce que en fait, cette question d'intervention militaire en Ukraine, elle pose aussi toute la question du redécoupage des frontières, éventuellement en Europe ailleurs d'ailleurs. Et donc en fait, là, il y a des cartes qui circulent dans les médias russes où vous avez justement l'extrême est qui pourrait revenir à la Russie, l'extrême ouest, pourquoi pas à la Pologne, et puis on garderait un centre comme ça, une Ukraine, pourquoi pas indépendante? Mais ça, ça circulait avant. Là, maintenant, on est dans une intervention militaire qui concerne Kiev et l'ensemble des villes. Aujourd'hui, on a des alertes à la bombe. Là, il y a quelques moments où des négociations doivent commencer. Des alertes à la bombe dans 6 ou 7 villes ukrainiennes. Donc, si vous voulez, voilà, effectivement, Vladimir Poutine cherche à décomposer l'Ukraine. Par contre, aujourd'hui, commencer à prendre les cartes et à refaire les frontières de l'Ukraine, là, on est confronté, si vous voulez, quand même, au peuple ukrainien lui-même, hein. C'est-à-dire, pourquoi nier à ce peuple le fait de vivre dans un État, hein. Je rappellerai que le territoire aujourd'hui occupé, c'est-à-dire l'annexion de la Crimée, plus les petits territoires séparatistes avant l'invasion russe, ça correspond à peu près à 7% du territoire ukrainien.
Effectivement. Oui, Jean-Marc Faure.
Oui, pour compléter ce que vient de dire Alexandra Goujon, il faut deux choses. Premièrement, il faut prendre en considération que même à l'est de l'Ukraine, dans les parties, on va dire, dites russophones de l'Ukraine, en réalité, il y a beaucoup, y compris deux russophones ukrainiens, qui veulent rester ukrainiens. Ils n'ont pas du tout l'intention de devenir russes. Premier élément de réponse. Et deuxième chose, en fait, pour répondre à nouveau à la question de Jean-Philippe, on n'en est plus tout à fait là. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'intention de Vladimir Poutine, c'est de prendre l'Ukraine. Je veux dire, et sa priorité des priorités, c'est de prendre Kiev et probablement d'installer un gouvernement à sa solde à Kiev. C'est ça son intention. Donc, c'est plus totalement le sujet, j'ai l'impression, pour l'instant.
Effectivement. Alors, il y a les sanctions économiques dont on a parlé. Il y a la riposte militaire. On va dire maintenant un petit mot des pressions qui peuvent être exercées aussi au niveau culturel et par les intellectuels qui sont à l'étranger. Je vous ai dit qu'on serait en ligne avec Yegor Gran, qui est écrivain. Et ben, il est au téléphone avec nous pour quelques minutes d'explication. Bonsoir, Yegor Gran.
Oui, bonsoir.
Alors, je précise que vous êtes né à Moscou et que vous avez des mots particulièrement durs pour dénoncer l'attitude du régime russe là depuis quelques jours. Dans Libération, hier, vous avez signé une tribune intitulée « Le kleptofascisme à l'assaut de l'Europe ». Vous dites dans ce papier que si Vladimir Poutine a décidé de venir confisquer l'Ukraine au nez, je vous citais, à la barbe de l'Europe, c'est parce qu'il a senti à quel point l'Occident était mou du genou. Vous n'êtes pas très optimiste pour la suite des événements malgré toute cette mobilisation à laquelle on assiste ?
Écoutez, alors déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est saluer la résistance absolument héroïque hein, du peuple ukrainien qui fabrique des cocktails Molotov. Je crois que la page la plus consultée de Wikipédia en Ukraine, c'est justement cocktail Molotov. Donc c'est vous dire leur attitude. J'ai entendu tout à l'heure le monsieur proposer une partition de l'Ukraine. Je pense pas que les Ukrainiens seraient absolument partant pour cette partition. Je sentis aussi un peu dans cette question peut-être une certaine tradition, de partition de la France, hein, la France libre, la France occupée, ce genre de choses qu'on retrouve chez d'autres hommes politiques et femmes politiques aujourd'hui. Donc une certaine complaisance envers Poutine, envers l'agresseur. Pour tout vous dire, en fait, moi j'ai plusieurs réflexions. D'abord, comment on en est arrivé là et que faut-il faire? Alors, comment on en est arrivé là? Par, abandon petit à petit, par lâcheté aussi de l'Occident qui a abandonné l'Ukraine, qui n'a pas été suffisamment dur envers Vladimir Poutine. C'est-à-dire, on parle de couper SWIFT la semaine prochaine. Je ne comprends pas pourquoi SWIFT n'a pas été coupé dès 2006, c'est-à-dire dès l'assassinat de Litvinenko au polonium en plein centre de Londres.
Yegor Gran, est-ce que je peux vous poser une question? On a appris aujourd'hui que Laurent Hilaire, qui est un très grand danseur avec ses toiles de l'Opéra de Paris, qui dirige la troupe du ballet du théâtre Stanislavski de Moscou, a annoncé sa démission. Il semblerait qu'il y ait des mouvements de l'intérieur pour contester ce qui se passe en ce moment en Russie. Est-ce que vous avez d'une part des informations sur ce point et est-ce que vous pensez que les milieux culturels font suffisamment, les milieux intellectuels ici en France, pour relayer les pressions?
Alors, déjà, en Russie, les milieux culturels font ce qu'ils peuvent, mais enfin, quand vous allez manifester, même si vous êtes tout seul, si vous faites un piquet avec une feuille A4 sur laquelle vous marquez stop à la guerre, vous êtes aussitôt, dans les 20 secondes qui suivent, vous êtes arrêté. Donc, si vous voulez, c'est très très dur, avec la meilleure volonté du monde, comme ça, de sortir dans la rue. Alors, les milieux culturels en France, ils sont... Ils se réveillent peut-être, certains. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quand même eu, aussi, dans le milieu culturel français, une complaisance absolue envers Poutine. Je pense, par exemple, Hélène Carrère-Dancausse, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, qui, pendant des années, nous a bassinés avec la grandeur de l'âme russe et avec une attitude, l'Ukraine fait partie de la Russie traditionnelle. Vous voyez, donc...
ça existe dans le milieu politique aussi, hein. C'est pas que dans le milieu culturel.
Oui, dans le milieu politique aussi, mais de toute façon, il y a une belle tradition. Si vous voulez, si Dieu nous garde, Dieu nous préserve, on se retrouve à la place de l'Ukraine, on a dans la belle tradition des collaborateurs, on aurait de quoi faire, parce qu'entre Zemmour, Le Pen, Dupont et Mélenchon, qui ont plus ou moins à divers degrés soutenu ou justifié l'attitude de la Russie et de M. Poutine, on aurait de quoi faire, si vous voulez.
Merci Yegor Gran. En tout cas, vous saluez le fait qu'aujourd'hui, effectivement, il y ait une mobilisation et un retournement de la situation. Votre dernier livre, c'est le journal d'Alix, c'est chez POL. Merci beaucoup, on aura forcément l'occasion de rediscuter avec vous. On va repartir au Standard de France Inter à présent, retrouver cette fois-ci Juliette, qui patiente depuis un petit moment. Bonsoir Juliette.
Bonsoir.
Merci d'avoir attendu. On vous écoute.
Je vous en prie, les propos étaient intéressants et je me suis enrichie. Voilà, ma question est double en deux volets et très courte. Durant ce processus de négociation, s'il y a bien lieu, est-ce que les deux intervenants, savoir Poutine et le président ukrainien, seront accompagnés par un intermédiaire européen ou international afin de les aider à se parler? Et parallèlement à ça, est-ce que durant ce processus, on peut compter sur un arrêt provisoire des combats dans les deux parties?
Merci pour cette double question à propos de ces pourparlers qui, a priori, débutent du côté de la frontière biélorusse. Qu'est-ce qu'on en sait exactement, Jean-Marc?
C'est pas très clair, on n'a pas de confirmation, hein, à dire vrai, de ce ne sont que des pourparlers, hein. C'est le mot qui est utilisé. Négociation me semble un bien grand mot. Dans le meilleur des cas, il va y avoir une rencontre du côté de la frontière de la Biélorussie, en sachant qu'en plus il y a une controverse sur le lieu exact de la rencontre, parce que les Ukrainiens ne veulent pas aller en Biélorussie. Et puis surtout, le vrai sujet évidemment, c'est de quoi on parlerait. Et là, j'ai envie de dire que dans le meilleur des cas, on parlerait d'un cessez-le-feu, dans le meilleur des cas. Mais c'est vraiment pas gagné. Donc, faut pas être très optimiste par rapport à ça. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'intermédiaire européen de prévu là-dedans. Mais je ne peux pas être catégorique.
Et pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Alexandra Goujon, vous souhaitiez réagir?
Oui, oui, je disais que là, on a eu quelques éléments sur le fait d'abord que c'était des... Donc, c'est pas une rencontre, bien évidemment, des chefs d'État. Donc, ce sont des délégations. Ce sont des personnes qui, côté russe, visiblement, n'ont pas un pouvoir de décision forcément très important. Et je crois qu'on est toujours, vous voyez, sur cette technique qu'on a, du coup, qu'on peut appeler technique maintenant, avec le recul de l'invasion, c'est-à-dire en fait négociation, alors que au même moment où doivent se rencontrer ces délégations, et effectivement là je suis d'accord, on sait même pas si ça va se passer comme ça, encore une fois il y a des alertes à la bombe, alors qu'on a dit ah bah là les rumeurs c'était ah bah, la journée a été plutôt calme et c'est peut-être lié à ces négociations, vous voyez. Donc en fait c'est une espèce de tension permanente, on espère quelque chose, mais ça risque de ne pas se passer. Et surtout ce qu'il y a d'important, c'est que le président ukrainien a tenu bon, vous parliez du lieu, hein, c'était extrêmement important pour lui parce que Gomel c'est en Biélorussie et comme aujourd'hui il y a des missiles qui viennent de Biélorussie, c'était pas acceptable, donc l'idée était plutôt de se rencontrer à la frontière, mais vraiment, j'allais dire entre, d'après ce que j'ai compris, entre le checkpoint biélorusse et le checkpoint ukrainien en quelque sorte, hein, donc c'est vraiment sur la frontière. Et l'idée, si vous voulez, c'est que le président ukrainien ne voulait pas se voir attribuer la responsabilité, on va dire, de refuser des négociations. Hein. Et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs, Zelensky a dit, voilà, on va aller discuter. Hein. Voilà, il a toujours été ouvert au dialogue, hein. Il n'a jamais refusé des négociations jusque-là. Et donc, voilà, puisque Vladimir Poutine accepte, pourquoi pas. Hein. Mais je crois qu'il n'en attendait pas beaucoup. Et d'ailleurs, il a dit, voyons ce que les Russes ont à nous dire.
Et en attendant, la guerre continue. Général Jérôme Pélistrandi, c'est ça qu'il faut retenir ce soir.
Bien entendu, et d'ailleurs, c'est ça ce qui est très frappant, c'est que d'abord, techniquement, Poutine n'a pas du tout intérêt à, en quelque sorte, accorder une trêve pour d'éventuelles discussions pour les deux délégations, parce que une trêve, cela permettrait aux forces ukrainiennes qui sont quand même sous pression de pouvoir se réorganiser. Il y a un point qui est effectivement et là qui est inquiétant, c'est que la chaîne de commandement ukrainienne, partant du président Zelensky jusqu'aux unités sur le terrain, qu'elles soient des forces armées régulières ou des milices qui se sont formées, fonctionnent. Mais la fatigue est là. Quand vous avez à planifier, quand vous êtes les forces ukrainiennes dans des états-majors sur le terrain, pour planifier les mouvements, pour planifier là où il faut intervenir, pour la logistique, la fatigue va se faire sentir. C'est-à-dire que même s'ils sont, entre guillemets, dopés par l'adrénaline du combat et parce qu'ils défendent leur terre, eh bien, la fatigue est là. Vous ne remplacez pas un capitaine commandant une compagnie comme ça. Vous ne remplacez pas des officiers de renseignement comme cela. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement... Dans les jours ou dans les heures à venir, qui pourrait être pénalisant pour la résistance ukrainienne. Donc, Poutine le sait, ses armées le savent, et donc, ils veulent maintenir la pression, parce que chaque heure gagnée par les forces ukrainiennes est une heure perdue pour Poutine.
Jean-Marc Faure.
Oui, pour prolonger ce qui vient d'être dit, c'est vrai que les Ukrainiens résistent, c'est clair, on le voit bien. Néanmoins, les forces russes progressent. Bon, elles sont supérieures, hein, notamment en termes aériens, c'est évident, et elles progressent malgré tout. Alors peut-être moins vite que ne l'espérait Vladimir Poutine, mais elles progressent. À Kharkiv, au nord, au sud-est, en se rapprochant de la ville de Mariupol, où d'ailleurs la situation est assez inquiétante, et évidemment aussi dans les faubourgs de Kiev. Donc les forces russes progressent. Donc l'un dans l'autre, on n'en est jamais qu'à 4 jours, hein, malgré tout. Donc on verra où on en est dans une semaine, mais les forces russes progressent. Donc Vladimir Poutine n'a pas nécessairement intérêt effectivement à négocier.
Charles nous appelle à son tour. Bonsoir Charles.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Vous aviez une question à poser à nos invités.
Oui, une question sur la Turquie d'Erdogan. Membre à part entière de l'OTAN. On avait vu un sous-marin russe passer il y a une semaine dans le Bosphore. Je me demandais si depuis le Bosphore avait été fermé aux navires russes. Et puis quelle est la position de la Turquie qui a qui a cultivé une relation particulière avec Poutine depuis quelques années.
Merci pour cette question, Charles. Jean-Marc Four, sur la question de la Turquie.
Alors, c'est vrai que la Turquie a une relation particulière avec Moscou. Hein. C'est compliqué, là aussi, attention. Hein. Il y a des alliances, mais en même temps, il y a une forme de détestation aussi. Bon, en tout cas, sur le discours, c'est clair. Hein. La Turquie d'Erdogan condamne l'intervention russe en Ukraine. Elle l'a fait à maintes reprises depuis 4 jours. Elle a demandé le retrait. Le président Erdogan a appelé Volodymyr Zelensky. Donc, on va dire que, en tout cas, en termes de discours, la Turquie se range du côté de l'OTAN, et elle n'a pas vraiment d'autre choix. Elle fait quand même partie de l'OTAN, donc même si elle a des armes russes, donc vous voyez, là encore, c'est compliqué. Et puis, il y a de l'approvisionnement, là aussi, en gaz russe. Donc, bon, la situation politique n'est pas simple. Néanmoins, on va dire que le discours du pouvoir turc est clairement du côté de la position des Occidentaux.
Et sur le Bosphore, ça faisait partie de la question de Charles,
Je ne suis pas moi-même un sous-marin dans le Bosphore, donc je ne peux pas vous garantir que le Bosphore ait été fermé aux sous-marins russes, mais c'est qui était normalement prévu.
Je crois que le général Jérôme Pellistrandi veut réagir sur ce point.
En fait, le détroit du Bosphore est donc réglementé par la convention de Montreux qui a été signée en 1932, donc qui d'une part limite la présence de flottes militaires donc en mer Noire. C'est ainsi par exemple que nous ne pouvons pas envoyer de porte-avions donc en mer Noire, et les bâtiments notamment de l'OTAN qui iraient en mer Noire ne peuvent rester que moins d'un mois. De l'autre côté, et pour les sous-marins, effectivement, en fait, les sous-marins doivent transiter en surface pour qu'ils soient visibles. Si la Turquie fermait le détroit aux navires militaires russes, cela pourrait être vu comme effectivement un acte hostile. Et donc, ça serait vraiment là encore quelque chose de très important. Par contre, il faut souligner, et ça, c'est, il faudra voir les développements. Aujourd'hui, 2 cargos non ukrainiens, il y avait un cargo pavillon panaméen et un autre sous pavillon moldave, ont été touchés par des missiles tirés par des navires de guerre russes, donc au large d'Odessa. Donc, que là, c'est quelque chose qui peut effectivement contribuer à aggraver la tension et qui pourrait justifier, s'il y avait d'autres actes du genre, effectivement, une remise en cause du passage de bâtiments militaires russes dans le détroit du Bosphore.
Je crois que Alexandra Goujon voulait réagir très rapidement parce qu'on va prendre un tout dernier appel si c'est possible et si tout le monde fait court. Allez, Alexandra Goujon. Non, vous n'êtes plus là. Allez,
oui,
on va.
C'est pour ça, je voulais pas. C'était éventuellement. Hein. Okay. Non, je voulais dire que aussi la Turquie avait, enfin, livrait des drones en fait à l'Ukraine et que voilà, ça avait aussi contrarié la Russie. Mais une précision.
Merci beaucoup. C'était très court. Thibault, pour terminer, allez, une toute dernière et s'il vous plaît pas trop longue.
Bonsoir, merci pour l'émission. Je voulais juste savoir si c'était pas une forme de chant du cygne de la part du Poutine, qui est jusqu'au boutiste et qui fait maintenant le pire qu'on ait pu envisager. Jusqu'à quel point il va pouvoir réprimander les manifestations qui s'opposent à sa politique? Est-ce que vraiment il peut continuer à aller plus loin? Est-ce que c'est au niveau de la politique intérieure et des réactions? Comment ça pourrait se passer?
Merci beaucoup Thibault. Allez, c'est pour vous Jean-Marc Four. Est-ce que la solution ne viendrait pas de là-bas?
Écoutez, ça peut aussi être un chant du cygne terriblement sanglant quand même. Donc voilà, il faut avoir ça à l'esprit, premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, est-ce qu'il peut se passer quelque chose à l'intérieur de la Russie? Écoutez, il y a 2 niveaux. Au niveau de la population, elle est quand même tenue sous contrôle. Il y a beaucoup d'arrestations encore aujourd'hui.
Des centaines depuis
jeudi. Il y a de la censure. Enfin voilà, on est dans un régime très autoritaire. Les masques, hein, de ce point de vue-là. Alors après, il reste l'entourage de Poutine. Effectivement, est-ce qu'il peut se passer quelque chose dans l'entourage? Mystère et boule de gomme.
Réponse un petit peu plus tard. Merci beaucoup Jean-Marc Four, merci beaucoup Général Jérôme Pellistrandi et merci Alexandra Goujon. Il est déjà 19h59.